Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors aujourd'hui, deuxième volet de notre série consacrée aux cloches. Comme dirait Gustav Mahler dans sa troisième symphonie, bim, bam, bim, bam.
Ich gehe und weine, ja, bitte.
cœur d'enfant, un cœur de femme, une contralto solo, plus de 30 instruments avant en additionnant les cuivres et les bois, deux harpes, de nombreuses percussions, des cordes graves et naturellement des cloches. Nous écoutions le cinquième mouvement de la troisième symphonie de Gustav Mahler dans la belle interprétation de Georg Solti à la tête du chœur et de l'orchestre symphonique de Chicago. Et je songeais en écoutant avec vous ce mouvement au titre que le compositeur avait initialement prévu de lui donner. Ce que me racontent les cloches du matin. Et ce que les cloches du matin nous racontent, si l'on en croit les paroles chantées par le chœur de femmes, c'est une histoire de ciel et de paradis. Es zungen drei Engel einen süßen Gesang. Trois anges chantaient une chanson et la faisaient joyeusement résonner dans le ciel. Des cloches célestes du paradis, nous passons maintenant à celle beaucoup plus terrestre de la vallée des cloches de Maurice Ravel, la dernière pièce de son cycle pour piano intitulé Miroir. Nous voici quelque part dans la montagne et le tintement lointain d'une cloche d'église se mêle aux sonnailles des troupeaux. C'est tout un paysage qui se déploie devant nous quand s'élève du médium grave vers l'aigu un beau thème lyrique que n'aurait pas désavoué Puccini. Largement chanté, écrit Ravel à cet endroit de la partition, et j'imagine volontiers un berger faisant de ses bêtes un public d'une remarquable bienveillance. Puis la pièce se referme comme elle s'était ouverte, sur ce brouillard impressionniste de cloches lointaines et de sonnailles tintinabulantes.
Thank you.
C'était La Vallée des cloches de Maurice Ravel et je dois dire, chers auditeurs de La Preuve par Z, que j'étais particulièrement ému à l'écoute de cet enregistrement, puisque c'était le compositeur lui-même qui interprétait sa pièce au piano. Mais oui, Maurice jouant Ravel en juin 1922 sur un pianola, c'est-à-dire un piano mécanique à papier perforé, un système qui n'a pas duré très longtemps mais qui connut un très grand succès au début du XXe siècle. Je vous en explique le principe. À l'enregistrement, chaque note, chaque nuance jouée s'inscrivait à l'encre sur un rouleau de papier que l'on perforait par la suite. Le jeu des pianistes pouvait ainsi être reproduit sur des pianos mécaniques munis du dispositif adapté, les trous dans le papier laissant passer de l'air comprimé qui déclenchait avec la nuance d'origine la frappe des marteaux. C'est ainsi qu'on pouvait s'offrir pour une somme tout à fait modique les plus grands interprètes dans son salon. Mais revenons à notre thème du jour, les cloches. Si chez Ravel, les sonnailles de la Vallée des cloches sont imitées par la main droite du piano, certains compositeurs n'ont pas hésité à inclure de véritables cloches de vache dans leurs partitions. C'est par exemple le cas de Richard Strauss, qui en 1915 compose sa dernière grande page orchestrale, la Symphonie Alpestre, l'une des pièces les plus descriptives du répertoire, une œuvre qui mobilise un orchestre de plus de 100 exécutants, parmi lesquels un orgue et 5 percussionnistes. Dans le passage suivant, ces percussionnistes font entendre un fouillis de sonnailles qui se mêlent au yodel du cor anglais, des clarinettes et des bassons, au tri des violons et au piaillement du piccolo. Fermez les yeux, vous êtes vraiment dans les Alpes. Quand les cloches de vache deviennent de véritables instruments de l'orchestre, c'était un étonnant extrait de la géniale symphonie alpestre de Richard Strauss dans la magnifique version de Rudolf Kempe et de la Staatskapelle de Dresde. Je vous propose de rester dans les Alpes, mais de passer de l'autre côté de la frontière pour rejoindre Genève, l'une des étapes du grand pèlerinage effectué par Franz Liszt entre 1835 et 1839. Et voici les cloches de Genève. Très belle page pour piano à laquelle le compositeur associe cette citation de Lord Byron « Je ne vis pas en moi-même, mais je deviens une part de ce qui m'entoure. » Une part de ce qui m'entoure. C'est comme si l'appel délicat mais saisissant des cloches provoquait chez Liszt, au-delà du pittoresque de leur sonorité, une exaltation, un élan presque mystique qui marque la pièce d'une empreinte à la fois religieuse, romantique et virtuose. Bertrand Chamaillou faisait délicatement teinter les cloches de Genève avant de porter jusqu'à son sommet l'exaltation lyrique de l'une des plus belles pièces de la première année de pèlerinage de Franz Liszt. Et en matière de virtuosité, le grand modèle de Liszt, c'est bien sûr Paganini, dont la prodigieuse technique fascine le public et la jeune génération de musiciens romantiques. Quel homme, quel violon, quel artiste, quelle souffrance, quelle angoisse, quel tourment ces quatre cordes peuvent exprimer, s'exclame Liszt au sujet du grand violoniste italien. Et puisque notre émission de la semaine est consacrée aux cloches, voici le célèbre final de son deuxième concerto pour violon, justement surnommé la Campanella, c'est-à-dire en français la cloche, en raison d'un petit jeu d'écho entre les notes aiguës du soliste et le fa dièse cristallin d'une clochette qu'on remplace la plupart du temps par un jeu de timbre ou par un triangle.
Thank you.
le final du deuxième concerto pour violon de Paganini, et j'espère que, comme moi, vous aurez été saisis par l'incroyable virtuosité d'Andrei Korsakov, l'un des grands violonistes russes de la seconde moitié du XXe siècle. Alors on ne peut imaginer plus éloigné de la personnalité flamboyante de Paganini que le caractère timide, introverti, du compositeur barcelonais Federico Mompou. Écrivant principalement pour le piano, ce satie catalan a le culte de la ligne claire. Un univers envoûtant, une musique volontiers modale, dépouillée, d'une simplicité particulièrement raffinée. Ce que veut Mompou, à la recherche de la solitude sonore, c'est atteindre le point intangible où la musique est devenue la voix même du silence, où le silence lui-même s'est fait musique, écrit à son sujet le philosophe Vladimir Yankelevitch. La famille de Mompou possédait une fonderie de cloches, ce qui explique sans doute la fascination du compositeur pour les longues vibrations du métal qu'il essayait dès son plus jeune âge de reconstituer sur son piano. Je vous propose maintenant de découvrir La fontaine et la cloche, une pièce composée pendant la Seconde Guerre mondiale à la suite d'une promenade nocturne et amoureuse dans le quartier gothique de Barcelone. Souvenir d'un temps suspendu, tandis que le silence de la nuit n'était peuplé que des résonances graves du grand bourdon de la cathédrale Santa Creu, qui en se dissipant laissait passer le doux bruissement d'une fontaine. Le pianiste américain Andrew Tyson interprétait avec émotion et recueillement La fontaine et la cloche, premier des trois paysages pour piano du compositeur catalan Federico Mompou. Alors savez-vous où se trouve la plus grosse cloche du monde? Eh bien, il s'agit de la Tsar Kolokol. Elle se trouve au Kremlin de Moscou. Construite en 1735 à la demande de la tsarine Anna Ière, elle fait 6 mètres de haut et 6 mètres de diamètre. Mais ces quelques 200 tonnes n'auront vibré que pendant 2 ans, puisqu'en 1737, elle tombe de son beffroi lors d'un incendie et se brise. Désormais muette, elle suscite, telle une sculpture monumentale, la curiosité des passants et des touristes. Mais moi, je l'imagine toujours sonner lorsque j'écoute l'extraordinaire scène du couronnement de l'opéra Boris Godounov de Moussorgski, alors que le peuple russe est massé place des cathédrales pour acclamer son nouveau tsar. Seulement pour accéder au trône, Boris Godounov a dû assassiner l'héritier légitime. Alors au moment de se présenter au peuple, il apparaît troublé, empli de doutes, de remords et de pressentiments. Faisant alterner deux accords saisissants, l'orchestre semble reproduire le mouvement d'une lourde cloche se balançant de droite à gauche, tandis que les bois, les pizzicato des cordes et le piano font entendre un motif oppressant. Le climat est électrique, et la tension orchestrale d'autant plus forte qu'elle se mêle aux tournoiements incessants des cloches des cathédrales du Kremlin. Thank you. Le chef d'orchestre Kent Nagano faisait sonner à toute volée les cloches de l'orchestre symphonique de Göteborg. C'était la scène du couronnement de Boris Godounov, le célèbre opéra de Moussorgski, dans la version originale de 1869. Une musique visionnaire qui est sans doute l'une des pages les plus marquantes de toute la musique russe. Et en l'écoutant, je me disais que cette musique était tellement suggestive qu'elle pouvait tout à fait se passer de décor et de mise en scène, que sa puissance évocatrice suffisait à faire surgir toutes les images dans notre esprit. Nous rejoignons maintenant un musicien dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler et dont la vie entière semble avoir été guidée par une véritable fascination pour les cloches. C'est qu'il aura fallu plus de 20 ans à Joël Grard pour constituer un clavier complet de cloches de vache, chacune choisie amoureusement pour sa hauteur et sa sonorité, un instrument qu'il a baptisé le clavicloche. Écoutons-le dans le premier morceau de son album « Des pas sous la neige », pièce d'une intense nostalgie, une méditation sur le temps suspendu, la montagne, la solitude. Des pas sous la neige, premier son de l'innocence, sonnailles et grelots happés par la montagne. Des pas sous la neige, lorsque mes traces se seront effacées, qui marchera dans les miennes ? De Joël Grard et par Joël Grard, nous écoutions sa merveilleuse composition pour ensemble de cloches intitulée « Des pas sous la neige » et non pas « sur la neige » comme le prélude pour piano de Debussy auquel Joël Grard fait bien évidemment allusion. Alors si en début d'émission les cloches de Gustav Mahler faisaient « bim bam », celles de Charles Trenet font plutôt « ding dong » comme dans cette chanson de 1945 dont il signe les paroles et la musique. Les cloches nous accompagnent à toutes les étapes de notre vie. Cloche de l'école, du mariage, du baptême. Cloche funèbre de la mort, cloche du paradis.
Sur un sentier de vert printemps, plein de fleurs en papier, on va courir les petits enfants, on va trotter leurs pieds. Ils vont le long des ruisseaux, font bonjour aux oiseaux. Ils se battent à coups de poing, tandis qu'on entend au loin, ding dong, écoutez la cloche, enfants en galoche. Aïe donc, la cloche a fait ding dong, ding dong. La cloche de l'école vous appelle Nicole. Gaston, la cloche a fait ding-dong. Il faut courir pour apprendre ses leçons et devenir de belles filles, de grands garçons. Ding-dong, écoutez la cloche ou gare aux taloches. Aïe donc, la cloche a fait ding-dong. Pour sa demande, le fiancé sue dans un col cassé, en jaquette, en souliers vernis. Il a l'air abruti, il bafouille devant papa, qui ne le comprend pas. Puis il dit, j'adore Madeleine. Aussitôt, tout s'enchaîne. Ding dong, écoutez la cloche, le mariage est proche. Aïe donc, la cloche fait ding dong, ding dong. La cloche du baptême, un enfant qu'on aime. Allons, allons, la cloche fait ding-dong. Puis le temps passe, et l'on devient un homme sérieux, très sérieux. Et dans la classe, on se dit, bon, je suis pas trop vieux, non. Ding-dong, mais la vie va vite, la jeunesse vous quitte. Allons, la cloche a fait ding-dong. Un jour, on se sent rap-la-pla. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'entend plus bien d'une oreille. Et de l'autre, c'est pareil. Dans son fauteuil, on revoit ce qui fut autrefois. Premiers amours, doux frissons, c'est la fin de la chanson. Écoutez la cloche, la méchante cloche. La cloche a fait ding-dong. C'est la cloche funèbre, le glas des ténèbres. La cloche a fait ding-dong. Je vous reconnais, dit Saint-Pierre, vous êtes Monsieur Durand.
Voyons, qu'avez-vous fait sur la terre, la vie Durand?
Ding-dong, j'écoutais les cloches.
Vous n'avez rien fait de moche?
Moi? Non. Entrez! Mais entrez non! Les cloches font et ding-dong.
Vous n'avez rien fait de moche? Moi? Non. J'écoutais les cloches. Nous chantait Charles Trenet, accompagné d'un orchestre dirigé par Guy Luypertz, un orchestre avec cloche solo, bien entendu. Enfin, il y a un autre artiste fasciné par les cloches que j'aimerais maintenant vous présenter. Je pense au compositeur, pianiste et percussionniste Alain Kremski. Né en 1940, élève de Darius Milhaud, lauréat de 6 premiers prix du Conservatoire de Paris et premier Grand Prix de Rome en 1962, c'est vraiment une personnalité tout à fait inclassable de la musique française. Car au début des années 70, Alain Kremski fait une sorte de crise mystique. Et plutôt que d'écrire de la musique, il va maintenant en improviser, tout d'abord avec un ensemble de cloches suspendues, puis avec des bols tibétains dont il devient rapidement le grand spécialiste. Une véritable signature sonore qui conquiert un large public, séduit, hypnotisé même par les vibrations si intenses, si persistantes de ces bols chantants.
Thank you.
le temps suspendu, les sonorités hypnotiques des bols tibétains d'Alain Kremski. Nous écoutions « Souvenir, berceuse pour un enfant tibétain », un extrait de son album « Exil » paru en 2008. Ces derniers coups de cloche viennent sonner la fin de cette Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Fricono, chef opérateur du son, Mathias Alléon. À la semaine prochaine.